Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le numérique et politique débat de ce soir est consacré à l'Europe et sa régulation du numérique au moment où la RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, entre en vigueur. Et nous en débattons ce soir avec Elliot Lepers, entrepreneur, bonsoir, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG, et Paula Forteza, députée La République En Marche. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Zoé Sfez qui reste avec nous.
Avec plaisir.
Chez les acteurs du numérique et de la tech, l'Europe et les Européens n'ont historiquement jamais autant fait parler d'eux qu'avec le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD, qui entrera en vigueur le 25 mai prochain, c'est-à-dire tout prochainement. À défaut de réussir pour le moment à faire émerger des acteurs d'envergure mondiale, comme un Google ou un Facebook, ou un Netflix ou un Twitter européen, l'Europe se fait remarquer par sa capacité à réguler ses acteurs. Ça passe donc par le RGPD, mais aussi par la fiscalité de ses entreprises en Europe, et c'est de ça dont on parle ce soir. Alors pour commencer, la plupart d'entre nous, d'entre vous, ont dû recevoir cette semaine une série de messages de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de LinkedIn, et etc., qui nous demandent de valider des choses. Alors peut-être pour commencer, Elliot Lepers, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on nous demande ça et quel est le lien avec la RGPD?
C'est vrai qu'on serait tenté de se dire que soudain, il y a une sorte d'élan vertueux qui a saisi la Silicon Valley. Mais en fait, tout simplement, ces entreprises, elles ont jusqu'au 24 mai au soir pour se conformer, en tout cas pour tous leurs utilisateurs et utilisatrices qui sont basés sur le territoire européen. Et donc, ils vont accéder à leurs services depuis le territoire européen, sont dans l'obligation de se conformer à un ensemble de règles assez contraignantes pour ces services. Et donc on peut, à la fois sur la conception des services qui doivent uniquement utiliser des données qui sont essentielles, qui sont nécessaires, qui sont loyales pour le fonctionnement du service, et puis obtenir un consentement explicite.
Alors donc on clique, on doit dire oui, c'est ça?
Bah l'enjeu c'est effectivement...
Mais souvent on peut pas dire non, donc
on peut pas dire non. Ou alors on vous fait croire qu'on peut pas dire non, vous vous neutrez que sur Facebook, on vous propose, on vous dit
oui,
vous
ou
pouvez
alors...
accepter oui, et après vous dites pas moi je vais essayer de dire non, on vous donne un texte, on vous dit si vous n'acceptez pas, et là on vous dit continuer, et là vous vous dites mais si je continue ça veut dire que je valide, alors qu'en réalité il faut continuer deux fois pour pouvoir
de perse, qu'est-ce que ça signifie ça?
Oui, c'est vrai que c'est pas très c'est pas forcément fait de manière extrêmement transparente, mais en tout cas bon là on a vu d'ailleurs qu'il y a au même moment Facebook lance une expérimentation sur la reconnaissance faciale.
Oui, il vous demande de dire oui aussi, vous êtes quasiment obligé de dire oui.
Le timing est quand même un petit peu bizarre, oui,
parce
quelques
que
semaines après Cambridge
Analytica. On protège
Analytica.
Vos données, mais maintenant on va en plus vous regarder, vous filmer, vous surveiller avec votre visage.
Au prétexte de pouvoir mieux protéger l'accès à son compte Facebook. Donc toutes ces entreprises sont obligées de se mettre en conformité pour leurs utilisateurs. Elles encourent des peines extrêmement importantes, des amendes extrêmement lourdes, plusieurs millions d'euros. Et donc c'est ça qui est en train de se passer pour que, elles respectent le règlement, qui est un règlement qui protège les Européennes et les Européens à partir du 25 mai.
Paula Forteza.
Oui, donc en tant qu'utilisateur, il faut savoir à quoi on a droit avec ce nouveau RGPD. On a droit à que ce consentement soit libre, éclairé, informé. On a droit à pas subir un chantage au service, c'est-à-dire
alors
que...
là, c'est pas trop libre, c'est pas trop éclairé,
voilà.
Et c'est un peu un chantage.
Voilà, les plateformes ne peuvent pas conditionner l'utilisation d'un service au fait que vous ayez accepté de partager vos données. Donc c'est le cas, on le voit parfois dans certains cas. Il y a aussi une question de privacy by design, c'est-à-dire que ce qui est précoché par défaut doit toujours être l'option la plus protectrice. C'est pas à nous d'aller faire un acte proactif pour nous protéger. Donc ça, il faudra être très vigilant. Il y a beaucoup d'associations qui sont en train de suivre la mise en place par toutes les plateformes qui sont en train de faire des comparaisons, voir quand est-ce que c'est pas à la hauteur des ambitions politiques qui ont été portées et de faire des actions de groupe en conséquence. Nous avons par exemple la Quadrature du Net qui a annoncé qu'elle va lancer une action de groupe contre Facebook le 25 mai, justement parce que le consentement qui est demandé n'est pas jugé éclairé et libre. C'est vrai que les conditions d'utilisation sont parfois aussi trop techniques. On a besoin d'un master de droit pour comprendre à quoi on est en train de consentir. Donc, il faut vraiment que...
Les millions d'utilisateurs de Facebook n'ont pas forcément, hélas, pour eux, pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, un master en droit. Elliot Lepers, le RGPD ajoute quoi par ailleurs?
Bah, il y a aussi la question de la protection des mineurs qui est intéressante. Donc le consentement effectivement pour les personnes majeures, mais le consentement des responsables légaux pour les personnes mineures. En France, ce sera en dessous de 16 ans. Ça peut être en dessous de 13 ans pour d'autres pays. Et puis la question de la portabilité qui est très intéressante. La portabilité des données, ça veut dire que eh bien, tous ces services sont obligés de vous donner la possibilité d'exporter votre profil, vos playlists par exemple sur un service de streaming de musique ou bien vos préférences sur n'importe quel réseau social pour aller eh bien, reproduire cette expérience sur un autre réseau, sur un autre service concurrent. Et ça, c'est une opportunité intéressante en termes économiques parce que ça va permettre à des acteurs eh bien, de pouvoir repartir avec cet historique-là, avec toute cette, toutes ces informations qu'on a au fil des années concaténé, eh bien, on va pouvoir utiliser ce qu'on a fait avec Facebook, mais aller chez un concurrent. Donc, on peut imaginer des alternatives qui émergent avec d'autres règles, avec d'autres business models.
Paula Forteza sur la RGPD, toujours.
Je crois justement que la portabilité des données est un des droits clés qui est en train d'être mis en place et qui va favoriser cette concurrence loyale au niveau européen. Ça, c'est déjà quelque chose qui a été testé au niveau des téléphones, par exemple, et ça marche très bien. On peut prendre son compte et aller vers une autre compagnie. C'est en train d'être mis en place aussi dans le secteur bancaire. Donc, pourquoi pas vraiment le mettre en œuvre au niveau des données personnelles. Ça va permettre justement qu'on puisse par exemple, prendre ces données de YouTube et les emmener vers Framatube, qui est un service libre et plus protecteur des données personnelles, ou prendre ces données de Twitter et les emmener vers Mastodon, qui est un réseau social décentralisé. Donc, ça va vraiment permettre d'avoir des initiatives européennes avec les valeurs qu'on veut porter au niveau international.
Alors, la CNIL a émis hier encore une nouvelle alerte à l'intention des entreprises parce qu'elle expliquait que depuis à quelques semaines, de l'entrée en vigueur de ce règlement, on voit fleurir sur Internet toute une foule d'experts, de cabinets qui sont censés vous accompagner, qui se disent recommandés par la CNIL et qui en fait se contentent de vous envoyer un espèce de petit texte. Donc on a l'impression que même les entreprises, évidemment pas les mastodontes parce qu'ils ont compris les enjeux, vont quand même avoir du mal à se conformer à ça, que ça va être compliqué. Et en tout début d'année sur Softpower, on avait entendu Yevgeny Morozov, qui évidemment est toujours assez, disons, frontal sur ces questions de la donnée et qui disait, mais finalement, c'est quand même des protections du pauvre sur RGPD. Ça va pas changer la donne, ni sur les données, sur la question de la portabilité, ni véritablement sur les questions de sécurité. Est-ce que finalement, on peut s'attendre à une vraie évolution ou pas au cataclysme qui permettrait de vraiment faire changer la donne, même en matière économique?
Elliot de Perse.
C'est vrai qu'on parle beaucoup des très grandes entreprises, mais c'est un règlement qui s'applique à toutes les entreprises. Et aujourd'hui, il y a un peu un vent de panique qui souffle parce que ça demande des compétences juridiques et puis des aménagements de plein de dispositions qui ne sont pas forcément faciles à mettre
en place. Et notamment pour
place.
Les entreprises françaises qui sont toutes petites, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que Google, Facebook, etc. Donc, c'est, on ne se tire pas un peu une balle dans le pied en
ayant ce type de règlement. Puis ce n'est pas que les entreprises de règlement qui gère de la donnée, donc ça peut être aussi les sites de prise de rendez-vous du docteur en ligne.
Et les journaux, quoi. Le Monde, j'imagine, Allociné, etc.
On augmente les standards, en fait. Moi, j'ai envie d'être assez optimiste parce que je pense que c'est un texte qui arrive finalement assez tard. C'est une mise à jour d'un texte qui a plus de 40 ans. Mais finalement, je trouve ça assez intéressant de se dire que ce texte, finalement, soit assez en avance vis-à-vis de l'opinion publique. C'est assez surprenant d'avoir une ambition aussi forte. Je suis assez curieux de voir comment ça va être mis en place, quelle va être la réaction aussi des autorités compétentes pour potentiellement aller punir les entreprises qui ne respectent pas la loi, quelle va être leur tolérance. Mais effectivement, voilà, il faut signaler qu'il faut faire gaffe aux arnaques en ce moment parce qu'il y a plein d'offres qui fleurissent. Et donc, il y a des guides très complets sur le site de la CNIL pour se renseigner, pour mettre à jour son entreprise. Et puis aussi sur le site de Next PC Impact, il y a plein d'informations très claires pour tout le monde.
Paula Forteza, sur ça, il y a toujours des effets pervers dès qu'on décide quelque chose.
Oui, il y a toujours des effets pervers, mais je crois que là-dessus, on est vraiment sur une ambition qui a été posée et qui est regardée partout dans le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, on commence à se dire, finalement, l'Europe était en avance sur cette question de Cambridge Analytica, sur le grand scandale. Il y a eu d'autres scandales aussi, sur Grindr, par exemple, qui a laissé que des données...
Sur le statut archivé d'un certain nombre de personnes.
Voilà, de la zéropositivité des utilisateurs a été partagée. Donc, les risques sont vraiment très hauts. Il faut vraiment que tous les acteurs économiques fassent des efforts, que ce soit les petits, les grands, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales. On est face à un enjeu de société et il faut vraiment faire un effort, rehausser les standards, comme disait bien Eliott.
Eliott Le Perse, une question un peu naïve comme ça. quel est l'intérêt finalement pour les citoyens européens de faire attention à l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles? Si on prend, si on fait attention qu'on ne met pas des photos de soi particulièrement problématiques et si on ne raconte pas tout, pourquoi en fait avoir tant peur que ça, que ces données soient utilisées?
Je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas se tromper de cible. On parle beaucoup des données, mais derrière les données, c'est des individus en fait. C'est la question collective de nos libertés qui est posée. Parce que ces doubles numériques qui sont formés par les données qui sont stockées dans les serveurs dont on n'a pas forcément connaissance, c'est cette souveraineté-là qui dépasse finalement la question effectivement simplement de nos photos de vacances, je pense. Donc c'est une question de démocratie et de gouvernance derrière. Et de savoir finalement à quels acteurs est-ce qu'on donne ce pouvoir sur des individus et sur des sociétés entières.
Paula Forteza.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait un peu ce credo « nothing to hide », on n'a rien à cacher, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes données, etc.
Ou alors, de toute façon, ils vont tout savoir, donc autant...
Voilà, mais là, par exemple, justement, le cas de Cambridge Analytica de Facebook est très intéressant parce qu'il nous a montré ce qu'on peut faire avec ces données agrégées. On peut arriver à manipuler des élections politiques. Donc, ce n'est pas que le fait de données isolées, c'est ce qu'on peut arriver à faire avec ces données personnelles et qui est un vrai risque pour nos sociétés.
Zoris Fez.
Mais alors justement, vous le disiez tout à l'heure, Elliot Lepers, on a l'impression que presque elle devance les exigences de l'opinion publique, parce que souvent, et on en a parlé, d'ailleurs il vient de le faire Frédéric en posant cette question, on a l'impression que les gens, finalement inconsciemment, n'ont pas tellement envie de savoir tout ce que ces données disent d'eux. Est-ce que du coup, est-ce qu'on va assez loin finalement?
Moi, je crois qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans le principe de minimisation des données. Et c'est vraiment un changement culturel qu'il faut avoir.
Qu'est-ce que vous voulez dire par minimisation ?
Minimisation des données, c'est-à-dire que les entreprises ne recollectent que les données dont ils ont vraiment besoin techniquement pour mettre en place un service, pour mettre en place une application.
Vous savez bien que pour la publicité, ils ont besoin de ce qu'ils... Et c'est leur modèle économique, donc c'est à leur demander de se tirer une balle dans le pied.
Parfois, ils prennent beaucoup plus de données. Ils ont pris l'habitude de stocker des données dans le temps aussi, dont ils n'ont pas besoin de demander beaucoup plus d'informations dont ils ont besoin. Parfois, pour créer un compte sur un service, il s'agit juste de donner un mail, juste un pseudonyme, et c'est tout.
Ça devrait être tout, oui.
Voilà.
Vous demande trop de choses. Et l'autre de Perse, alors, quelles sont les prochaines étapes? Et puis, quid de... Parce qu'il y a quand même aussi, en parallèle, l'Europe qui travaille, notamment Margrethe Vestager, qui est très, très active et très, d'ailleurs, courageuse et dynamique, y compris parfois contre d'autres commissaires européens qui le sont moins, y compris français. Est-ce que les propositions de l'Europe sont efficaces? Quelles sont les prochaines étapes? Et aussi, il y a l'idée de taxer les entreprises.
Je pense que les propositions de l'Europe sont efficaces, notamment parce qu'on voit la réaction des acteurs, notamment américains. On a appris, là, ces dernières semaines, que Facebook avait migré 1,6 milliard de ses utilisateurs depuis ses serveurs, depuis la juridiction irlandaise,
ramené aux
vers
États-Unis.
La juridiction californienne, tout simplement parce que, donc pour les utilisateurs qui sont asiatiques, par exemple, ou bien
africains ou latinos,
voilà, et donc qui ne sont pas aujourd'hui contraints par la législation européenne, ils l'auraient été s'ils étaient encore juridiquement basés en Irlande. Donc on voit bien que l'Europe pose un standard qui est plus exigeant que le standard d'autres pays du monde. Et donc ça montre un précédent.
Ça peut être un modèle du coup aussi. Ouais.
Exactement. C'est un modèle pour avancer et pour et peut-être
des pays comme la Turquie, le Brésil étaient en pointe, donc ils vont sans doute suivre,
ouais.
On peut imaginer.
Exactement.
Paula Forteza.
On commence à avoir des pénalités qui sont vraiment conséquentes. Donc il y a eu cette amende financière qui a été donnée à Google de 2,4 milliards d'euros parce qu'ils avaient mis en avant leur solution de Google Shopping au lieu d'en mettre d'autres, etc. Donc on commence à avoir
dans le moteur de recherche, ils privilégient leur propre service.
Voilà, exactement. Et là, dans le cadre du RGPD aussi, on a des amendes qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial des entreprises. Ça commence à être conséquent et ça commence à être vraiment pris au sérieux par ces géants du numérique.
Il y a un problème quand même sur le ciblage des sociétés, sur le fait de taxer le CA ou les revenus sur le territoire, notamment Elliot Lepers.
Bah là, donc sur la fiscalité, sur la taxation, il y a des avancées intéressantes au niveau européen. Il y a deux mécanismes qui sont proposés.
Ouais.
Le premier, qui est un mécanisme de court terme, c'est de dire on va taxer l'activité sur le numérique. Donc tous les échanges qui sont un peu immatériels, on va pouvoir mettre en place une taxation de l'ordre de 3%. Et donc sur par exemple le tout ce qui est intermédiaire. Vous êtes Uber, vous prenez une taxe quand vous mettez en réseau un prestataire de service et un consommateur. Eh bien, ça va pouvoir être imposé dans les pays où les profits sont générés. Ça, c'est nouveau. Et c'est compliqué au niveau européen parce que eh bien, tous les petits paradis fiscaux comme l'Irlande ont fort à perdre si jamais ces profits sont partagés. Et donc, il va falloir se mettre d'accord au niveau des 28 ou des 27 pays pour faire passer ces questions-là. Et puis après, un deuxième mécanisme de plus long terme, en fait, de repenser l'assiette de taxation des impôts sur les sociétés. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on repense comment est-ce qu'on considère les profits. Et ça, c'est un travail de plus longue haleine. C'est un travail qui va émerger autour de 2020. Mais donc, c'est intéressant d'avoir ces deux mécanismes, le court terme et le plus long terme.
Un mot seulement pour la Forteza, pour terminer.
Sur toutes ces questions, on est en train de mettre à jour des modalités de régulation, que ce soit la concurrence loyale, que ce soit la fiscalité, aux yeux des enjeux du numérique. Donc la question de la territorialité est extrêmement importante.
Centrale. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Eliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG, et Paula Forteza, députée La République En Marche.